Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. Voici le déroulé de cette nouvelle émission. En première partie, nous donnons la parole à notre frère Michel Thomas, avec qui nous continuerons la lecture du ciel et l'enfer, ou la justice divine selon le spiritisme. En seconde partie, nous retrouverons avec grand plaisir notre très cher frère Michel Buffet, président du Conseil Spirit français, qui répondra aux questions posées par nos auditeurs. Notre émission du jour se terminera par les séquences habituelles, à savoir l'agenda des activités spirites francophones, avis et communiqués de nos divers partenaires, ainsi qu'une très courte présentation de livres spirites par notre sœur Arlette Jobbé de la Fédération Spirite de la province de Liège en Belgique. Nous profitons également de ce début d'année pour vous souhaiter à vous qui nous écoutez aujourd'hui ainsi qu'à vos familles respectives, une excellente année 2012. Bonne écoute et à bientôt. Aujourd'hui, notre frère Michel Thomas nous invite à poursuivre avec lui la lecture du ciel et l'enfer ou de la justice divine selon le spiritisme. Comme signalé dans notre émission précédente, il sera notre lecteur principal pour les mois à venir. C'est donc avec une grande joie que nous lui cédons la parole.
Chapitre 2. Appréhension de la mort. Cause de l'appréhension de la mort. 1. L'homme, à quelques degrés de l'échelle qui l'appartienne, depuis l'état de sauvagerie, a le sentiment inné de l'avenir. Son intuition lui dit que la mort n'est pas le dernier mot de l'existence et que ceux que nous regrettons ne sont pas perdus sans retour. La croyance en l'avenir est intuitive et infiniment plus générale que celle au néant. Comment se fait-il donc que, parmi ceux qui croient à l'immortalité de l'âme, on trouve encore tant d'attachement aux choses de la terre et une si grande appréhension de la mort ? 2. L'appréhension de la mort est un effet de la sagesse de la Providence et une conséquence de l'instinct de conservation commun à tous les êtres vivants. Elle est nécessaire tant que l'homme n'est pas assez éclairé sur les conditions de la vie future, comme contrepoids à l'entraînement qui, sans ce frein, le porterait à quitter prématurément la vie terrestre et à négliger le travail d'ici-bas qui doit servir à son propre avancement. C'est pour cela que, chez les peuples primitifs, l'avenir n'est qu'une vague intuition. Plus tard, une simple espérance. Plus tard, enfin, une certitude, mais encore contrebalancée par un secret attachement à la vie corporelle. 3. À mesure que l'homme comprend mieux la vie future, l'appréhension de la mort diminue. Mais en même temps, comprenant mieux sa mission sur la terre, il attend sa fin avec plus de calme, de résignation et sans crainte. La certitude de la vie future donne un autre cours à ses idées, un autre but à ses travaux. Avant d'avoir cette certitude, il ne travaille que pour la vie actuelle. Avec cette certitude, il travaille en vue de l'avenir, sans négliger le présent, parce qu'il sait que son avenir dépend de la direction plus ou moins bonne qu'il donne au présent. La certitude de retrouver ses amis après la mort, de continuer les rapports qu'il a eus sur la terre, de ne perdre le fruit d'aucun travail, de grandir sans cesse en intelligence et en perfection, lui donne la patience d'attendre et le courage de supporter les fatigues momentanées de la vie terrestre. La solidarité qu'il voit s'établir entre les morts et les vivants lui fait comprendre celle qui doit exister entre les vivants. La fraternité a dès lors sa raison d'être et la charité un but dans le présent et dans l'avenir. 4. Pour s'affranchir des appréhensions de la mort, il faut pouvoir envisager celle-ci sous son véritable point de vue, c'est-à-dire avoir pénétré, par la pensée, dans le monde spirituel et s'en être fait une idée aussi exacte que possible, ce qui dénote chez l'esprit incarné un certain développement et une certaine aptitude à se dégager de la matière. Chez ceux qui ne sont pas suffisamment avancés, la vie matérielle l'emporte encore sur la vie spirituelle. L'homme, s'attachant à l'extérieur, ne voit la vie que dans le corps, tandis que la vie réelle est dans l'âme. Le corps étant privé de vie, à ses yeux, tout est perdu, et il se désespère. Si, au lieu de concentrer sa pensée sur le vêtement extérieur, il la portait sur la source même de la vie, sur l'âme, qui est l'être réel survivant à tout, il regretterait moins le corps, source de tant de misère et de douleur. Mais pour cela, il faut une force que l'esprit n'acquiert qu'avec la maturité. L'appréhension de la mort tient donc à l'insuffisance des notions sur la vie future, mais elle dénote le besoin de vivre et la crainte que la destruction du corps ne soit la fin de tout. Elle est ainsi provoquée par le secret désir de la survivance de l'âme encore voilée par l'incertitude. L'appréhension s'affaiblit à mesure que la certitude se forme, elle disparaît quand la certitude est complète. Voilà le côté providentiel de la question. Il était sage de ne pas éblouir l'homme, dont la raison n'était pas encore assez forte, pour supporter la perspective trop positive et trop séduisante d'un avenir qui lui fait négliger le présent, nécessaire à son avancement matériel et intellectuel. 5. Cet état de choses est entretenu et prolongé par des causes purement humaines qui disparaîtront avec le progrès. La première est l'aspect sous lequel est présentée la vie future, aspect qui pouvait suffire à des intelligences peu avancées, mais qui ne saurait satisfaire les exigences de la raison des hommes qui réfléchissent. Dès lors, se disent-ils, qu'on nous présente comme des vérités absolues des principes contredits par la logique et les données positives de la science, c'est que ce ne sont pas des vérités. De là, chez quelques-uns, l'incrédulité, chez un grand nombre, une croyance mêlée de doutes. La vie future est pour eux une idée vague, une probabilité, plutôt qu'une certitude absolue. Ils y croient, ils voudraient que cela fût, et malgré eux, ils se disent, si pourtant cela n'était pas. Le présent est positif, occupons-nous-en d'abord. L'avenir viendra par surcroît. Et puis, se disent-ils encore, qu'est-ce que, en définitive, l'âme ? Est-ce un point, un atome, une étincelle, une flamme ? Comment se sent-elle ? Comment voit-elle ? Comment perçoit-elle ? L'âme n'est point pour eux une réalité effective, c'est une abstraction. Les êtres qui leur sont chers, réduits à l'état d'atome, dans leurs pensées, sont pour ainsi dire perdus pour eux, et n'ont plus à leurs yeux les qualités qui les leur faisaient aimer. Ils ne comprennent ni l'amour d'une étincelle, ni celui qu'on peut avoir pour elle, et eux-mêmes sont médiocrement satisfaits d'être transformés en monades. De là, le retour au positivisme de la vie terrestre, qui a quelque chose de plus substantiel. Le nombre de ceux qui sont dominés par ces pensées est considérable. 6. Une autre raison qui rattache aux choses de la terre, ceux-mêmes qui croient le plus fermement à la vie future, tient à l'impression qu'ils conservent de l'enseignement qui leur en est donné dès l'enfance. Le tableau qu'en fait la religion n'est, il faut en convenir, ni très séduisant, ni très consolant. D'un côté, l'on y voit les contorsions des damnés, qui expient dans les tortures et les flammes, sans fin, leurs erreurs d'un moment. Pour qui les siècles succèdent aux siècles, sans espoir d'adoucissement, ni de pitié. Et ce qui est le plus impitoyable encore, pour qui le repentir est sans efficacité. De l'autre, les âmes languissantes et souffreteuses du purgatoire, attendant leur délivrance du bon vouloir des vivants, qui prieront ou feront prier pour elles, et non de leurs efforts pour progresser. Ces deux catégories composent l'immense majorité de la population de l'autre monde. Au-dessus, plane celle très restreinte des élus, jouissant pendant l'éternité d'une béatitude contemplative. Cette éternelle inutilité, préférable sans doute au néant, n'en est pas moins d'une fastidieuse monotonie. Aussi voit-on dans les peintures qui retracent les bienheureux des figures angéliques, mais qui respirent plutôt l'ennui que le véritable bonheur. Cet état ne satisfait ni les aspirations, ni l'idée instinctive du progrès, qui semble seul compatible avec la félicité absolue. On a peine à concevoir que le sauvage ignorant, au sens moral obtus, par cela qu'il a reçu le baptême, soit au même niveau que celui qui est parvenu au plus haut degré de la science et de la moralité pratique après de longues années de travail. Il est encore moins concevable que l'enfant mort en bas âge, avant d'avoir la conscience de lui-même et de ses actes, jouisse des mêmes privilèges par le seul fait d'une cérémonie à laquelle sa volonté n'a aucune part. Ses pensées ne laissent pas d'agiter les plus fervents pour peu qu'ils réfléchissent. 7. Le travail progressif que l'on accomplit sur la terre n'étant pour rien dans le bonheur futur, la facilité avec laquelle il croit acquérir ce bonheur au moyen de quelques pratiques extérieures, la possibilité même de l'acheter à prix d'argent, sans réforme sérieuse du caractère et des habitudes, laisse aux jouissances du monde toute leur valeur. Plus d'un croyant se dit dans son fort intérieur que, puisque son avenir est assuré par l'accomplissement de certaines formules ou par des dons posthumes qui ne le privent de rien, il serait superflu de s'imposer des sacrifices ou une gêne quelconque au profit d'autrui, dès lors qu'on peut faire son salut en travaillant chacun pour soi. Assurément, telle n'est pas la pensée de tous, car il y a de grandes et belles exceptions, mais on ne peut se dissimuler que ce ne soit celle du plus grand nombre, surtout des masses peu éclairées, et que l'idée que l'on se fait des conditions pour être heureux dans l'autre monde n'entretienne l'attachement au bien de celui-ci, et par suite, l'égoïsme. 8. Ajoutons à cela que tout, dans les usages, concourt à faire regretter la vie terrestre et redouter le passage de la terre au ciel. La mort n'est entourée que de cérémonies lugubres qui terrifient plus qu'elles ne provoquent l'espérance. Si l'on représente la mort, c'est toujours sous un aspect repoussant, et jamais comme un sommeil de transition. Tous ces emblèmes rappellent la destruction du corps, le montrent hideux et décharné. Aucun ne symbolise l'âme se dégageant radieuse de ses liens terrestres. Le départ pour ce monde plus heureux n'est accompagné que des lamentations des survivants, comme s'il arrivait le plus grand malheur à ceux qui s'en vont. On leur dit un éternel adieu, comme si l'on ne devait jamais les revoir. Ce que l'on regrette pour eux, ce sont les jouissances d'ici-bas, comme s'ils n'en devaient point trouver de plus grandes. Quel malheur, dit-on, de mourir quand on est jeune, riche, heureux, et qu'on a devant soi un brillant avenir. L'idée d'une situation plus heureuse effleure à peine la pensée, parce qu'il n'y a pas de racine. Tout concourt donc à inspirer l'effroi de la mort, au lieu de faire naître l'espérance. L'homme sera longtemps, sans doute, à se défaire de ses préjugés, mais il y arrivera à mesure que sa foi s'affermira, qu'il se fera une idée plus saine de la vie spirituelle. 9. La croyance vulgaire place en outre les âmes dans des régions à peine accessibles à la pensée, où elles deviennent en quelque sorte étrangères aux survivants. L'Église elle-même met entre elles et ces derniers une barrière infranchissable. Elle déclare que toute relation est rompue, toute communication impossible. Si elles sont dans l'enfer, tout espoir de les revoir est à jamais perdu, à moins d'y aller soi-même. Si elles sont parmi les élus, elles sont toutes absorbées par leur béatitude contemplative. Tout cela met entre les morts et les vivants une telle distance que l'on regarde la séparation comme éternelle. C'est pourquoi on préfère encore avoir près de soi, souffrant sur la terre, les êtres que l'on aime, que de les voir partir, même pour le ciel. Puis, l'âme qui est au ciel, est-elle réellement heureuse de voir, par exemple, son fils, son père, sa mère ou ses amis brûler éternellement? Appréhension de la mort. Pourquoi les spirites n'appréhendent pas la mort? 10. La doctrine spirite change entièrement la manière d'envisager l'avenir. La vie future n'est plus une hypothèse, mais une réalité. L'état des âmes après la mort n'est plus un système, mais un résultat d'observation. Le voile est levé. Le monde spirituel nous apparaît dans toute sa réalité pratique. Ce ne sont pas les hommes qui l'ont découvert par l'effort d'une conception ingénieuse. Ce sont les habitants même de ce monde qui viennent nous décrire leur situation. Nous les y voyons, à tous les degrés de l'échelle spirituelle, dans toutes les phases du bonheur et du malheur. Nous assistons à toutes les péripéties de la vie d'outre-tombe. Là est, pour les spirites, la cause du calme avec lequel ils envisagent la mort, de la sérénité de leurs derniers instants sur la terre. Ce qui les soutient, ce n'est pas seulement l'espérance, c'est la certitude. Ils savent que la vie future n'est que la continuation de la vie présente dans de meilleures conditions, et ils l'attendent avec la même confiance qu'ils attendent le lever du soleil après une nuit d'orage. Les motifs de cette confiance sont dans les faits, dont ils sont témoins, et dans l'accord de ces faits avec la logique, la justice et la bonté de Dieu, et les aspirations intimes de l'homme. Pour les spirites, l'âme n'est plus une abstraction, elle a un corps éthéré qui en fait un être défini, que la pensée embrasse et conçoit. C'est déjà beaucoup pour fixer les idées sur son individualité, ses aptitudes et ses perceptions. Le souvenir de ceux qui nous sont chers se repose sur quelque chose de réel. On ne se les représente plus comme des flammes fugitives qui ne rappellent rien à la pensée, mais sous une forme concrète qui nous les montre mieux comme des êtres vivants. Puis, au lieu d'être perdus dans les profondeurs de l'espace, ils sont autour de nous. Le monde corporel et le monde spirituel sont en perpétuel rapport et s'assistent mutuellement. Le doute sur l'avenir n'étant plus permis, l'appréhension de la mort n'a plus de raison d'être. On la voit venir de sang-froid comme une délivrance, comme la porte de la vie et non comme celle du néant. Chapitre 3. Le ciel. 1. Le mot ciel se dit en général de l'espace indéfini qui environne la terre, et plus particulièrement de la partie qui est au-dessus de notre horizon. Il vient du latin coelum, formé du grec koilos, creux, concave, parce que le ciel paraît aux yeux comme une immense concavité. Les anciens croyaient à l'existence de plusieurs cieux superposés, composés de matières solides et transparentes, formant des sphères concentriques dont la Terre était le centre. Ces sphères, tournant autour de la Terre, entraînaient avec elles les astres qui se trouvaient dans leur circuit. Cette idée, qui tenait à l'insuffisance des connaissances astronomiques, fut celle de toutes les théogonies, qui firent des cieux, ainsi échelonnés, les divers degrés de la béatitude. Le dernier était le séjour de la suprême félicité. Selon l'opinion la plus commune, il y en avait sept, de là l'expression « être au septième ciel », pour exprimer un parfait bonheur. Les musulmans en admettent neuf, dans chacun desquels s'augmente la félicité des croyants. L'astronome Ptolémée en comptait onze, dont le dernier était appelé Empyrée, à cause de l'éclatante lumière qui y règne. C'est encore aujourd'hui le nom poétique donné au lieu de la gloire éternelle. La théologie chrétienne reconnaît trois cieux. Le premier est celui de la région de l'air et des nuages, le second est l'espace où se meuvent les astres, le troisième, au-delà de la région des astres, est la demeure du Très-Haut, le séjour des élus qui contemplent Dieu face à face. C'est d'après cette croyance qu'on dit que saint Paul fut enlevé au troisième ciel. 2. Les différentes doctrines concernant le séjour des bienheureux reposent toutes sur la double erreur que la Terre est le centre de l'univers et que la région des astres est limitée. C'est par-delà cette limite imaginaire que toutes ont placé ce séjour fortuné et la demeure du Tout-Puissant. Singulière anomalie qui place l'auteur de toutes choses, celui qui les gouverne toutes aux confins de la création, au lieu du centre d'où le rayonnement de sa pensée pouvait s'étendre à tout. 3. La science, avec l'inexorable logique des faits et de l'observation, a porté son flambeau jusque dans les profondeurs de l'espace et montré le néant dans toutes ses théories. La Terre n'est plus le pivot de l'univers, mais un des plus petits astres roulant dans l'immensité. Le Soleil lui-même n'est que le centre d'un tourbillon planétaire. Les étoiles sont d'innombrables soleils autour desquels circulent des mondes innombrables, séparés par des distances à peine accessibles à la pensée, quoiqu'ils nous semblent se toucher. Dans cet ensemble, régi par des lois éternelles, où se révèlent la sagesse et la toute-puissance du Créateur, la Terre n'apparaît que comme un point imperceptible et l'un des moins favorisés pour l'habitabilité. Dès lors, on se demande pourquoi Dieu en aurait fait l'unique siège de la vie et y aurait relégué ses créatures de prédilection. Tout au contraire, annonce que la vie est partout, que l'humanité est infinie comme l'univers. La science nous révélant des mondes semblables à la Terre, Dieu ne pouvait les avoir créés sans but. Il a dû les peupler d'êtres capables de les gouverner. 4. Les idées de l'homme sont en raison de ce qu'il sait. Comme toutes les découvertes importantes, celle de la constitution des mondes a dû leur donner un autre cours. Sous l'empire de ces nouvelles connaissances, les croyances ont dû se modifier. Le ciel a été déplacé, la région des étoiles, étant sans limite, ne peut plus lui en servir. Où est-il ? Devant cette question, toutes les religions restent muettes. Le spiritisme vient la résoudre en démontrant la véritable destinée de l'homme. La nature de ces derniers et les attributs de Dieu étant pris pour point de départ, on arrive à la conclusion, c'est-à-dire qu'en partant du connu, on arrive à l'inconnu par une déduction logique, sans parler des observations directes que permet de faire le spiritisme. 5. L'homme est composé du corps et de l'esprit. L'esprit est l'être principal, l'être de raison, l'être intelligent. Le corps est l'enveloppe matérielle que revêt temporairement l'esprit pour l'accomplissement de sa mission sur la terre et l'exécution du travail nécessaire à son avancement. Le corps usé se détruit et l'esprit survit à sa destruction. Sans l'esprit, le corps n'est qu'une matière inerte, comme un instrument privé du bras qui le fait agir. Sans le corps, l'esprit est tout, la vie et l'intelligence. En quittant le corps, il rentre dans le monde spirituel, d'où il était sorti pour s'incarner. Il y a donc le monde corporel, composé des esprits incarnés, et le monde spirituel, formé des esprits désincarnés. Les êtres du monde corporel, par le fait même de leur enveloppe matérielle, sont attachés à la terre ou à un globe quelconque. Le monde spirituel est partout, autour de nous et dans l'espace. Aucune limite ne lui est assignée. En raison de la nature fluidique de leur enveloppe, les êtres qui le composent, au lieu de se traîner péniblement sur le sol, franchissent les distances avec la rapidité de la pensée. La mort du corps est la rupture des liens qui les retenaient captifs. 6. Les esprits sont créés simples et ignorants, mais avec l'aptitude à tout acquérir et à progresser, en vertu de leur libre arbitre. Par le progrès, ils acquièrent de nouvelles connaissances, de nouvelles facultés, de nouvelles perceptions, et par suite, de nouvelles jouissances inconnues aux esprits inférieurs. Ils voient, entendent, sentent et comprennent ce que les esprits arriérés ne peuvent ni voir, ni entendre, ni sentir, ni comprendre. Le bonheur est en raison du progrès accompli, de sorte que, de deux esprits, l'un peut n'être pas aussi heureux que l'autre, uniquement parce qu'il n'est pas aussi avancé intellectuellement et moralement, sans qu'il ait besoin d'être chacun dans un lieu distinct. Quoique étant à côté l'un de l'autre, l'un peut être dans les ténèbres, tandis que tout est resplendissant autour de l'autre, absolument comme pour un aveugle et un voyant qui se donnent la main. L'un perçoit la lumière qui ne fait aucune impression sur son voisin. Le bonheur des esprits étant inhérent aux qualités qu'ils possèdent, ils le puisent partout où ils le trouvent, à la surface de la terre, au milieu des incarnés ou dans l'espace. Une comparaison vulgaire fera mieux encore comprendre cette situation. Si, dans un concert, se trouvent deux hommes, l'un bon musicien à l'oreille exercée, l'autre sans connaissance de la musique et au sens de l'ouïe peu délicat, le premier éprouve une sensation de bonheur, tandis que le second reste insensible, parce que l'un comprend et perçoit, ce qui ne fait aucune impression sur l'autre. Ainsi en est-il de toutes les jouissances des esprits, qui sont en raison de l'aptitude à les ressentir. Le monde spirituel a partout des splendeurs, des harmonies et des sensations que les esprits inférieurs, encore soumis à l'influence de la matière, n'entrevoient même pas et qui ne sont accessibles qu'aux esprits épurés. 7. Le progrès chez les esprits est le fruit de leur propre travail, mais comme ils sont libres, ils travaillent à leur avancement avec plus ou moins d'activité et de négligence selon leur volonté. Ils hâtent ainsi ou retardent leur progrès et par suite leur bonheur. Tandis que les uns avancent rapidement, d'autres croupissent de longs siècles dans les rangs inférieurs. Ils sont donc les propres artisans de leur situation, heureuse ou malheureuse, selon cette parole du Christ, à chacun selon ses œuvres. Tout esprit qui reste en arrière ne peut s'en prendre qu'à lui-même, de même que celui qui avance en a tout le mérite. Le bonheur qu'il a conquis n'en a que plus de prix à ses yeux. Le bonheur suprême n'est le partage que des esprits parfaits, autrement dit, des purs esprits. Ils ne l'atteignent qu'après avoir progressé en intelligence et en moralité. Le progrès intellectuel et le progrès moral marchent rarement de front, mais ce que l'esprit ne fait pas dans un temps, il le fait dans un autre, de sorte que les deux progrès finissent par atteindre le même niveau. C'est la raison pour laquelle on voit souvent des hommes intelligents et instruits très peu avancés moralement et réciproquement. 8. L'incarnation est nécessaire au double progrès moral et intellectuel de l'esprit, au progrès intellectuel par l'activité qu'il est obligé de déployer dans le travail, au progrès moral par le besoin que les hommes ont les uns des autres. La vie sociale est la pierre de touche des bonnes et des mauvaises qualités. La bonté, la méchanceté, la douceur, la violence, la bienveillance, la charité, l'égoïsme, l'avarice, l'orgueil, l'humilité, la sincérité, la franchise, la loyauté, la mauvaise foi, l'hypocrisie, en un mot, tout ce qui constitue l'homme de bien ou l'homme perverse, a pour mobile, pour but et pour stimulant les rapports de l'homme avec ses semblables. Pour l'homme qui vivrait seul, il n'y aurait ni vice ni vertu. Si, par l'isolement, il se préserve du mal, il annule le bien. 9. Une seule existence corporelle est manifestement insuffisante pour que l'esprit puisse acquérir tout ce qui lui manque en bien et se défaire de tout ce qui est mauvais en lui. Le sauvage, par exemple, pourrait-il jamais, dans une seule incarnation, atteindre le niveau moral et intellectuel de l'Européen le plus avancé? Cela est matériellement impossible. Doit-il donc rester éternellement dans l'ignorance et la barbarie, privé des jouissances que peut seul procurer le développement des facultés? Le simple bon sens repousse une telle supposition, qui serait à la fois la négation de la justice et de la bonté de Dieu, et celle de la loi progressive de la nature. C'est pourquoi Dieu, qui est souverainement juste et bon, accorde à l'esprit de l'homme autant d'existence que cela est nécessaire pour arriver au but, qui est la perfection. Dans chaque existence nouvelle, l'esprit apporte ce qu'il a acquis dans les précédentes en aptitude, en connaissance intuitive, en intelligence et en moralité. Chaque existence est ainsi un pas en avant dans la voie du progrès. L'incarnation est inhérente à l'infériorité des esprits. Elle n'est plus nécessaire à ceux qui en ont franchi la limite et qui progressent à l'état spirituel ou dans les existences corporelles des mondes supérieurs qui n'ont plus rien de la matérialité terrestre. De la part de ceux-ci, elle est volontaire, en vue d'exercer sur les incarnés une action plus directe pour l'accomplissement de la mission dont ils sont chargés auprès d'eux. Ils en acceptent les vicissitudes et les souffrances par dévouement. 10. Dans l'intervalle des existences corporelles, l'esprit rentre pour un temps plus ou moins long dans le monde spirituel, où il est heureux ou malheureux, selon le bien ou le mal qu'il a fait. L'état spirituel est l'état normal de l'esprit, puisque ce doit être son état définitif, et que le corps spirituel ne meurt pas. L'état corporel n'est que transitoire et passager. C'est à l'état spirituel surtout qu'il recueille les fruits du progrès accompli par son travail dans l'incarnation. C'est alors aussi qu'il se prépare à de nouvelles luttes et prend les résolutions qu'il s'efforcera de mettre en pratique à son retour dans l'humanité. L'esprit progresse également dans l'erraticité. Il y puise des connaissances spéciales qu'il ne pouvait acquérir sur la Terre. Ses idées se modifient. L'état corporel et l'état spirituel sont pour lui la source de deux genres de progrès solidaires, l'un de l'autre. C'est pourquoi il passe alternativement dans ces deux modes d'existence. Le ciel. 11. La réincarnation peut avoir lieu sur la Terre ou dans d'autres mondes. Parmi les mondes, il en est des plus avancés, les uns que les autres, où l'existence s'accomplit dans des conditions moins pénibles que sur la Terre, physiquement et moralement, mais où ne sont admis que des esprits arrivés à un degré de perfection en rapport avec l'état de ces mondes. La vie dans les mondes supérieurs est déjà une récompense, car on y est exempt des maux et des vicissitudes auxquelles on est en butte ici-bas. Les corps moins matériels, presque fluidiques, n'y sont sujets ni aux maladies, ni aux infirmités, ni aux mêmes besoins. Les mauvais esprits en étant exclus, les hommes y vivent en paix, sans autre soin que celui de leur avancement par le travail de l'intelligence. Là règne la véritable fraternité, parce qu'il n'y a pas d'égoïsme. La véritable égalité, parce qu'il n'y a pas d'orgueil. La véritable liberté, parce qu'il n'y a pas de désordre à réprimer, ni d'ambitieux cherchant à opprimer le faible. Comparé à la Terre, ces mondes sont de véritables paradis. Ce sont les étapes de la route du progrès qui conduit à l'état définitif. La Terre étant un monde inférieur destiné à l'épuration des esprits imparfaits, c'est la raison pour laquelle le mal y domine jusqu'à ce qu'il plaise à Dieu d'en faire le séjour des esprits plus avancés. C'est ainsi que l'esprit, progressant graduellement à mesure qu'il se développe, arrive à l'apogée de la félicité. Mais avant d'avoir atteint le point culminant de la perfection, il jouit d'un bonheur relatif à son avancement. Tel l'enfant goûte les plaisirs du premier âge, plus tard ceux de la jeunesse, et finalement ceux plus solides de l'âge mûr. 12. La félicité des esprits bienheureux n'est pas dans l'oisiveté contemplative, qui serait, comme il a souvent été dit, une éternelle et fastidieuse inutilité. La vie spirituelle, à tous les degrés, est au contraire une constante activité, mais une activité exempte de fatigue. Le suprême bonheur consiste dans la jouissance de toutes les splendeurs de la création, qu'aucun langage humain ne saurait rendre, que l'imagination la plus féconde ne saurait concevoir, dans la connaissance et la pénétration de toutes choses, dans l'absence de toute peine physique et morale, dans une satisfaction intime, une sérénité d'âme que rien n'altère, dans l'amour pur qui unit tous les êtres, par suite de l'absence de tout froissement par le contact des méchants, et par-dessus tout, dans la vue de Dieu et dans la compréhension de ses mystères révélés aux plus dignes. Elle est aussi dans les fonctions dont on est heureux d'être chargé. Les purs esprits sont les messies ou messagers de Dieu pour la transmission et l'exécution de ses volontés. Ils accomplissent les grandes missions, président à la formation des mondes et à l'harmonie générale de l'univers, charge glorieuse à laquelle on n'arrive que par la perfection. Ceux de l'ordre le plus élevé sont seuls dans les secrets de Dieu, s'inspirant de sa pensée, dont ils sont les représentants directs. 13. Les attributions des esprits sont proportionnées à leur avancement, aux lumières qu'ils possèdent, à leur capacité, à leur expérience et au degré de confiance qu'ils inspirent au souverain maître. Là, point de privilège, point de faveur qui ne soit le prix du mérite. Tout est mesuré au poids de la stricte justice. Les missions les plus importantes ne sont confiées qu'à ceux que Dieu sait propres à les remplir et incapables d'y faillir ou de les compromettre, tandis que, sous l'œil même de Dieu, Les plus dignes composent le Conseil suprême, à des chefs supérieurs est dévolue la direction des tourbillons planétaires. À d'autres est conférée celle des mondes spéciaux. Viennent ensuite, dans l'ordre de l'avancement et de la subordination hiérarchique, les attributions plus restreintes de ceux qui sont préposés à la marche des peuples, à la protection des familles et des individus, à l'impulsion de chaque branche du progrès, aux diverses opérations de la nature, jusqu'aux plus infimes détails de la création. Dans ce vaste et harmonieux ensemble, il y a des occupations pour toutes les capacités, toutes les aptitudes, toutes les bonnes volontés. Occupations acceptées avec joie, sollicitées avec ardeur, parce que c'est un moyen d'avancement pour les esprits qui aspirent à s'élever. 14. À côté des grandes missions confiées aux esprits supérieurs, il y en a de tous les degrés d'importance, dévolues aux esprits de tous ordres, d'où l'on peut dire que chaque incarné a la sienne, c'est-à-dire des devoirs à remplir pour le bien de mes semblables, depuis le père de famille à qui incombe le soin de faire progresser ses enfants, jusqu'à l'homme de génie qui jette dans la société de nouveaux éléments de progrès. C'est dans ces missions secondaires que l'on rencontre souvent des défaillances, des prévarications, des renoncements, mais qui ne nuisent qu'à l'individu et non à l'ensemble. 15. Toutes les intelligences concourent donc à l'œuvre générale, à quelque degré qu'elles soient arrivées, et chacune dans la mesure de ses forces, les unes à l'état d'incarnation, les autres à l'état d'esprit. Partout l'activité, depuis le bas jusqu'au haut de l'échelle, toutes s'instruisant, s'entraidant, se prêtant un mutuel appui, se tendant la main pour atteindre le sommet. Ainsi s'établit la solidarité entre le monde spirituel et le monde corporel, autrement dit, entre les hommes et les esprits, entre les esprits libres et les esprits captifs. Ainsi se perpétue et se consolide, par l'épuration et la continuité des rapports, les sympathies véritables, les affections saintes. Partout donc, la vie et le mouvement, pas un coin de l'infini qui ne soit peuplé, pas une région qui ne soit incessamment parcourue par d'innombrables légions d'êtres radieux, invisibles pour les sens grossiers des incarnés, mais dont la vue, ravie d'admiration et de joie, les âmes dégagées de la matière. Partout enfin, il y a un bonheur relatif pour tous les progrès, pour tous les devoirs accomplis. Chacun porte en soi les éléments de son bonheur, en raison de la catégorie où le place son degré d'avancement. Le bonheur tient aux qualités propres des individus, et non à l'état matériel du milieu où il se trouve. Il est donc partout où il y a des esprits capables d'être heureux. Nulle place circonscrite ne lui est assignée dans l'univers. En quelque lieu qu'il se trouve, les purs esprits peuvent contempler la majesté divine, parce que Dieu est partout. 16. Cependant, le bonheur n'est point personnel. Si on ne le puisait qu'en soi-même, si on ne pouvait le faire partager à d'autres, il serait égoïste et triste. Il est aussi dans la communion de pensée qui unit les êtres sympathiques. Des esprits heureux, attirés les uns vers les autres par la similitude des idées, des goûts, des sentiments, forment de vastes groupes ou familles homogènes au sein desquelles chaque individualité rayonne de ses propres qualités et se pénètre des effluves sereines et bienfaisantes qui émanent de l'ensemble, dont les membres tantôt se dispersent pour vaquer à leur mission, tantôt s'assemblent sur un point quelconque de l'espace, pour se faire part du résultat de leurs travaux, tantôt se réunissent autour d'un esprit d'un ordre plus élevé pour recevoir ses avis et ses instructions. 17. Bien que les esprits soient partout, les mondes sont les foyers où ils s'assemblent de préférence en raison de l'analogie qui existe entre eux et ceux qui les habitent. Autour des mondes avancés abondent des esprits supérieurs. Autour des mondes arriérés pullulent les esprits inférieurs. La Terre est encore un de ces derniers. Chaque globe a donc, en quelque sorte, sa population propre en esprit incarné et désincarné, qui s'alimente en majeure partie par l'incarnation et la désincarnation des mêmes esprits. Cette population est plus stable dans les mondes inférieurs, où les esprits sont plus attachés à la matière, et plus flottante dans les mondes supérieurs. Mais des mondes, foyers de lumière et de bonheur, des esprits se détachent vers les mondes inférieurs, pour y semer les germes du progrès, y porter la consolation et l'espérance, relever les courages abattus par les épreuves de la vie, et parfois s'y incarnent pour accomplir leur mission avec plus d'efficacité. 18. Dans cette immensité sans bornes, où est donc le ciel? Il est partout. Nulle enceinte ne lui sert de limite. Les mondes heureux sont les dernières stations qui y conduisent. Les vertus en frayent le chemin, les vices en interdisent l'accès. À côté de ce tableau grandiose qui peuple tous les coins de l'univers, qui donne à tous les objets de la création un but et une raison d'être, quelle est petite et mesquine la doctrine qui circonscrit l'humanité sur un imperceptible point de l'espace, qui nous la montre commençant à un instant donné, pour finir également un jour avec le monde qui la porte, n'embrassant ainsi qu'une minute dans l'éternité. Qu'elle est triste, froide et glaciale quand elle nous montre le reste de l'univers avant, pendant et après l'humanité terrestre, sans vie, sans mouvement, comme un immense désert plongé dans le silence. Qu'elle est désespérante par la peinture qu'elle fait du petit nombre des élus voués à la contemplation perpétuelle, tandis que la majorité des créatures est condamnée à des souffrances sans fin. Qu'elle est navrante pour les cœurs aimants par la barrière qu'elle pose entre les morts et les vivants. Les âmes heureuses, dit-on, ne pensent qu'à leur bonheur. Celles qui sont malheureuses, à leur douleur. Est-il étonnant que l'égoïsme règne sur la terre quand on le montre dans le ciel ? Combien alors est étroite l'idée qu'elle donne de la grandeur, de la puissance et de la bonté de Dieu ? Combien est sublime, au contraire, celle qu'en donne le spiritisme ? Combien sa doctrine grandit les idées, élargit la pensée ? Mais qui dit qu'elle est vraie ? La raison d'abord, la révélation ensuite, puis sa concordance avec le progrès de la science. Entre ces deux doctrines, dont l'une amoindrit et l'autre étend les attributs de Dieu, dont l'une est en désaccord et l'autre en harmonie avec le progrès, dont l'une reste en arrière et l'autre marche en avant, le bon sens dit de quel côté est la vérité. Qu'en présence des deux, chacun, dans son fort intérieur, interroge ses aspirations et une voix intime lui répondra. Les aspirations sont la voix de Dieu qui ne peut tromper les hommes. 19. Mais alors, pourquoi Dieu ne leur a-t-il pas, dès le principe, révélé toute la vérité ? Par la même raison qu'on n'enseigne pas à l'enfant ce qu'on enseigne à l'âge mûr. La révélation restreinte était suffisante pendant une certaine période de l'humanité. Dieu la proportionne aux forces de l'esprit. Ceux qui reçoivent aujourd'hui une révélation plus complète sont les mêmes esprits qui en ont déjà reçu une partielle en d'autres temps, mais qui, depuis lors, ont grandi en intelligence. Avant que la science eût révélé aux hommes les forces vives de la nature, la constitution des astres, le véritable rôle et la formation de la Terre, auraient-ils compris l'immensité de l'espace et la pluralité des mondes ? Avant que la géologie eût prouvé la formation de la Terre, auraient-ils pu déloger l'enfer de son sein et comprendre le sens allégorique des six jours de la création ? Avant que l'astronomie eût découvert les lois qui régissent l'univers, auraient-ils pu comprendre qu'il n'y a ni haut ni bas dans l'espace, que le ciel n'est pas au-dessus des nuages, ni borné par les étoiles ? Avant les progrès de la science psychologique, auraient-ils pu s'identifier avec la vie spirituelle ? Concevoir après la mort une vie heureuse ou malheureuse, autrement que dans un lieu circonscrit et sous une forme matérielle ? Non, comprenant plus par les sens que par la pensée, l'univers était trop vaste pour leur cerveau. Il fallait le réduire à des proportions moins étendues pour le mettre à leur point de vue, sauf à l'étendre plus tard. Une révélation partielle avait son utilité. Elle était sage alors. Elle était insuffisante aujourd'hui. Le tort est à ceux qui, ne tenant point compte du progrès des idées, croient pouvoir gouverner des hommes mûrs avec les lisières de l'enfance.
Chers amis, restez à l'écoute. Nous retrouverons notre frère Michel Buffet pour la séquence questions-réponses juste après cette petite pause musicale.
Merci Gérard. Chers auditeurs de Radio Kardec, bonjour. Nous allons répondre aujourd'hui aux questions qui nous ont été posées. Question. Si une personne est réincarnée, est-ce toujours utile de prier pour elle lorsqu'on n'est pas médium et qu'on ne peut donc que se raccrocher à son ancienne incarnation terrestre? Je dirais, il ne faut pas chercher à compliquer. Un médium n'est qu'un intermédiaire entre le monde spirituel et notre monde matériel. Nous sommes tous plus ou moins médiums, et la médiumnité se doit d'être au service de ses frères et non un sujet d'enrichissement matériel. La prière est un acte d'adoration envers Dieu et de charité envers ses frères. Une prière sincère est toujours relayée dans le monde spirituel par les bons esprits. La prière est une vibration d'amour qui sort du cœur et atteint toujours son destinataire, car la pensée est un attribut de l'esprit. Tout le monde peut prier, et si tout le monde priait, le monde spirituel qui nous entoure en tirerait un bienfait pour un monde meilleur. La prière n'est pas de réciter plusieurs fois, c'est offrir ce qu'il y a de meilleur en nous pour ceux qui peuvent être aidés. Et ce ne sont pas que les mots qui font la prière qui se remplit d'émotions dans une union spirituelle, notamment pour celui pour qui on prie. On peut donc prier pour les incarnés comme pour les désincarnés, car la prière a des vertus. Nouvelle question. Peut-on vraiment libérer un esprit, le pousser à poursuivre sa route vers Dieu par la prière si l'on n'est pas médium ? Ou est-ce juste un peu de bien qu'on lui fasse qui ne lui apporte en fait pas grand-chose? Là, je répondrai, comme je viens de le dire, n'idéalisons pas le médium car l'orgueil en a fait chuter plus d'un. Le livre et le film Nos Solars, notre demeure en français, nous montrent l'esprit André Louis dans le monde spirituel qui ne croyait pas avoir été aimé sur Terre et qui découvre une personne que lui aidait lorsqu'il était docteur dans son incarnation et qui, lors de son décès, priait Dieu pour son salut. Il découvrit alors qu'aucune prière n'était perdue et que tout arrivait un jour à bon port. Prier pour quelqu'un, incarné ou désincarné, n'est pas l'objet d'un négoce, mais d'un acte de pure charité et d'amour dont il ne nous appartient pas d'en mesurer l'effet. La façon de donner vaut mieux que ce que l'on donne, n'est-ce pas? Que nous dit le livre des esprits? À la question 659, quel est le caractère général de la prière? Les esprits répondent, la prière est un acte d'adoration. Prier Dieu, c'est penser à lui, c'est se rapprocher de lui, c'est se mettre en communication avec lui. Par la prière, on peut se proposer trois choses. Louer, demander, remercier. À la question 660, la prière rend-elle l'homme meilleur? La réponse des esprits, oui, car celui qui prie avec ferveur et confiance est plus fort contre les tentations du mal, et Dieu lui envoie de bons esprits pour l'assister. C'est un secours qui n'est jamais refusé quand il est demandé avec sincérité. Une nouvelle question nous est posée. Est-il utile de prier pour un groupe d'esprits comme les esprits de nos ancêtres si l'on ne sait pas les distinguer les uns des autres? J'essaye de ressentir des émotions précises qui pourraient les entraver, mais je n'ai pas d'autre support. Là encore, toutes les prières sont bonnes, car c'est faire le bien. Demandez à votre guide spirituel de prier avec vous et la sincérité d'union risque de vous faire ressentir bien des émotions qui vous confirmeront que vous êtes sur le bon chemin de la prière qui unit. Ne demandons pas aux bons esprits de descendre jusqu'à nous, mais essayons plutôt de monter jusqu'à eux par la prière. Ne cherchons pas obligatoirement à rassembler les esprits de nos ancêtres. Priez pour ceux que vous avez connus. Jésus prie Dieu pour nous tous, car nous avons tous besoin de son aide. C'est l'universalité de la création divine qui nous unit tous. Prions pour que le monde devienne meilleur. Cela aura des retombées sur vos ancêtres aussi. Le livre des esprits nous précise à la question 662. Peut-on prier utilement pour autrui? Les esprits nous disent, l'esprit de celui qui prie agit par sa volonté de faire le bien. Par la prière, il attire à lui les bons esprits qui s'associent au bien qu'il veut faire. Une nouvelle question. Est-il dangereux, lorsqu'on n'a pas le don médiumnique ni votre expérience, d'avoir de la compassion pour tous les esprits, même ceux qui sont en colère ou farceurs? Prier est un moyen d'attirer à soi de bons esprits pour nous aider. Car croyez bien que les esprits farceurs, perturbateurs, en colère ou ignorants, ont besoin de nos prières comme enseignement pour comprendre les vertus de la prière notamment. Mais d'une manière générale, cette prière a plutôt tendance à les éloigner, car il ne s'agit pas là de leurs préoccupations. La prière ne connaît pas d'overdose, car lorsqu'elle est sincère, elle nous met sur la route du bien. Nouvelle question. Lorsqu'on prie pour se lager des esprits, risque-t-on après d'en avoir de plus en plus qui s'accrochent à nous pour être soulagés? Peut-on demander à nos bons guides de limiter cet effet? Je viens de répondre à cette question. La prière aide et notre guide est là pour nous protéger. C'est un esprit qui, de par sa mission, ne cherchera pas à nous tromper. N'essayons pas non plus de soulager les esprits souffrants dans le monde spirituel sans en connaître le fonctionnement et les pièges. Allons dans un centre spirit pour le comprendre et le pratiquer sans danger, sous la protection de bons guides. D'ailleurs, la question 666 nous dit « Peut-on prier les esprits ?» La réponse, on peut prier les bons esprits comme étant les messagers de Dieu et les exécuteurs de ses volontés. Mais leur pouvoir est en raison de leur supériorité et relève toujours du maître de toutes choses, sans la permission de qui rien ne se fait. C'est pourquoi les prières que l'on adresse ne sont efficaces que si elles sont agréées par Dieu. Nous avons une nouvelle question. Mes filles ont des problèmes de santé. La deuxième d'une nature que l'on m'a par plusieurs voies indiquée comme étant karmique. Elles sont élevées avec ma compréhension du monde spirituel. Si je prie beaucoup pour les esprits qui en ont besoin, cela ne risque-t-il pas d'en attirer certains qui trouveront en elles des proies faciles ou des supports à leurs tourments? Notre chemin ici-bas est celui des épreuves, qu'elles soient de réparation du passé ou qu'elles apparaissent pour notre progrès. Qu'importe d'où elles proviennent, nous n'avons pas accepté avant de nous incarner d'épreuves au-dessus de nos forces. Alors confiance et foi dans notre avenir et notre capacité à les surmonter. Les problèmes de santé font partie de ces épreuves. La foi et la prière peuvent les aider dans l'acceptation et peuvent faciliter l'efficacité de la médecine. Le livre des esprits nous précise là encore. Question 664. Est-il utile de prier pour les morts et pour les esprits souffrants? Et dans certains cas, comment nos prières peuvent-elles leur procurer du soulagement et abréger leurs souffrances? Ont-elles le pouvoir de faire fléchir la justice de Dieu? La prière ne peut avoir pour effet de changer les desseins de Dieu. Mais l'âme pour laquelle on prie en éprouve du soulagement, parce que c'est un témoignage d'intérêt qu'on lui donne, et que les malheureux ont toujours été soulagés quand ils trouvent des âmes charitables qui compatissent à leur douleur. D'un autre côté, par la prière, on l'excite au repentir et au désir de faire ce qu'il faut pour être heureux. C'est en ce sens qu'on peut abréger sa peine, si de son côté, il seconde par la bonne volonté. Ce désir d'amélioration, excité par la prière, attire près de l'esprit souffrant des esprits meilleurs qui viennent l'éclairer, le consoler et lui donner l'espérance. Jésus priait pour les brebis égarées. Il nous montre par là que vous seriez coupable de ne pas le faire pour ceux qui en ont le plus besoin. Nouvelle question. J'ai un ami suicidaire depuis son adolescence. Il me semble parfois comme condamné à en arriver là, tôt ou tard. Est-ce possible qu'aller jusque-là fasse partie de son chemin d'expiation. Par exemple, s'il a poussé d'autres suicides auparavant. En ce cas, sa faute, s'il le fait, sera-t-elle toujours aussi grave ? Il ne faut pas excuser son suicide en se disant qu'il est expiatoire. Se suicider est un acte qui dépend de nous, tout comme les conséquences retombent sur nous. Cela est juste. Il vaut mieux considérer le suicide comme une lâcheté devant les épreuves. Ces paroles semblent dures, mais les épreuves que l'on dit karmiques ou justifiées par la loi de causalité sont acceptées par l'esprit avant de s'incarner, en connaissance de cause. Nous ne devons donc pas désespérer de la vie, mais affronter les expiations nécessaires à notre évolution. Sinon, tout est à recommencer, mais dans des conditions plus difficiles. La question 350. L'esprit, une fois uni au corps de l'enfant, et alors qu'il n'y a plus à s'en dédire, regrette-t-il quelquefois le choix qu'il a fait ? Veux-tu dire si, comme homme, il se plaint de la vie qu'il a, s'il la voudrait autre ? Oui, s'il regrette le choix qu'il a fait. Réponse : non, il ne sait pas qu'il l'a choisi. L'esprit, une fois incarné, ne peut regretter un choix dont il n'a pas conscience. Mais il peut trouver la charge trop lourde. Et s'il la croit au-dessus de ses forces, c'est alors qu'il a recours au suicide. Question 946. Que penser du suicide qui a pour but d'échapper aux misères et aux déceptions de ce monde ? Réponse : pauvres d'esprits qui n'ont pas le courage de supporter les misères de l'existence. Dieu aide ceux qui souffrent et non pas ceux qui n'ont ni force ni courage. Les tribulations de la vie sont des épreuves ou des expiations. Heureux ceux qui les supportent sans murmurer, car ils en seront récompensés. Malheur, au contraire, à ceux qui attendent leur salut de ce que, dans leur impiété, ils appellent le hasard ou la fortune. Le hasard ou la fortune, pour me servir de leur langage, peuvent en effet les favoriser un instant. Mais c'est pour leur faire sentir plus tard et plus cruellement le néant de ces mots. Le mouvement Spirit francophone fait en 2011 une campagne de lutte contre le suicide. Je vous recommande d'accompagner cet ami dans un centre spirit avec un rendez-vous et avec vous-même. Cette démarche est très importante lorsque l'on connaît les conséquences du suicide. Il faut savoir que le suicide en France fait plus de morts que les accidents de la route. Une nouvelle question. J'ai un ami suicidaire depuis son adolescence. S'il passe à l'acte, comme il est de plus en plus probable, je lui ai demandé à ce qu'il me contacte pour que je prie pendant qu'il sera en train de mourir, afin d'essayer de l'aider à dépasser le trouble qui suivra et à trouver le plus vite possible ses guides. Est-ce idiot ou dangereux ? Je ne suis absolument pas médium. Je pense qu'il s'agit là de la même personne. S'il passe à l'acte, il faut qu'il s'attende à une période très pénible dans le monde spirituel. Tout cela est très bien décrit dans le livre « Mémoire d'un suicidé ». Je vous invite à le lire. Il est disponible dans les centres spirites. Prier pour quelqu'un n'est ni idiot ni dangereux, bien au contraire, comme nous l'avons vu. Mais les conditions du passage ne s'arrêteront pas au simple trouble, mais à des perturbations où il ne sera pas encore sensible aux personnes qui prient pour lui. Même si cela lui apporte soulagement, cela ne viendra qu'après, dans une prise en charge spirituelle d'aide dans des hôpitaux spirituels. Une nouvelle question. Si une personne se suicide car malade psychiquement, est-ce toujours une lourde faute ? Dans le livre des esprits, à la question 376, d'où vient que la folie porte quelquefois au suicide, est-il demandé ? La réponse des esprits : l'esprit souffre de la contrainte qu'il éprouve et de l'impuissance où il est de se manifester librement. C'est pourquoi il cherche dans la mort un moyen de briser ses liens. 377, l'esprit de l'aliéné se ressentit après la mort du dérangement de ses facultés. Il peut s'en ressentir quelque temps après la mort, jusqu'à ce qu'il soit complètement dégagé de la matière, comme l'homme qui s'éveille se ressent quelque temps du trouble où le sommeil l'a plongé. Question 378. Comment l'altération du cerveau peut-elle réagir sur l'esprit après la mort? C'est un souvenir, un poids, pèse sur l'esprit, et comme il n'a pas eu l'intelligence de tout ce qui s'est passé durant sa folie, il lui faut toujours un certain temps pour se remettre au courant. C'est pour cela que plus a duré la folie pendant la vie, plus longtemps dure la gêne, la contrainte après la mort. L'esprit dégagé du corps se ressent quelque temps de l'impression de ses liens. Question 944. L'homme a-t-il le droit de disposer de sa propre vie? Réponse: non. Dieu seul a ce droit. Le suicide volontaire est une transgression à cette loi. Le suicide n'est-il pas toujours volontaire? Réponse: le fou qui se tue ne sait pas ce qu'il fait. Chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour de nouvelles questions-réponses.
Nous voici arrivés à la séquence réservée à l'agenda des activités spirit en Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg et en France. En Belgique, le noyau d'études spirit Camille Flammarion, NICAFLA, ASBL, a le plaisir de vous inviter à une conférence spéciale, dont le thème sera « L'énergie, lien entre la santé et la spiritualité, interaction entre la santé de l'être humain et celle de la Terre ». Le conférencier sera notre frère Pascal Merker, le vendredi 27 janvier 2012, de 19h30 à 21h30. En effet, tout est énergie, ce qui nous entoure, ce qui nous nourrit, ce que nous pensons. Pour notre santé physique et spirituelle, il faut donc bien gérer nos pensées. Le comment et le pourquoi de cette problématique sera abordé à cette conférence par notre frère Pascal, invité de la province de Liège, qui, depuis longtemps, se dédie à étudier ce binôme science et spiritualité. Le droit d'entrée sera de 2 €, qui seront intégralement versés au programme Stop Famine Corne d'Afrique. L'événement est public à partir de 12 ans. Pour toute information complémentaire, merci de consulter le site de l'association www.nicafla.com ou envoyer un email à info@nicafla.com. Le lieu de la conférence sera XL, salle de réunion au rez-de-chaussée de l'immeuble à la rue Tamboche numéro 85. Soyez nombreux à cette conférence, nous comptons sur vous. Nos amis de l'Association du Chemin nous informent qu'ils organisent une conférence sur le Time Healing, le film La Guérison, Miracle, Mystère et Johanno de Deuce. Celle-ci aura lieu le samedi 14 janvier 2012 à 14h30 dans la salle AEP 5 rue de l'Artisanat à 69 290 Grézieux-la-Varenne. L'entrée sera gratuite. Merci de bien vouloir réserver vos places pour renseignements complémentaires et inscriptions sur le site de l'association www.du-chemin.org. Le Conseil Spirit français nous prie de vous informer des activités du CSF en 2012. Vous pouvez d'ores et déjà prendre note des grands événements, dont notamment la campagne nationale pour la protection de la vie avec les TAM « Luttons contre l'avortement » et contre le suicide. Manifestation nationale pour les 150 ans du voyage spirit de 1862 d'Allan Kardec. Ils organiseront ou seront présents également à la réunion du Conseil spirit international à Montréal du 3 au 6 mai 2012, au symposium de l'Union spirit belge et du mouvement spirit français à Wégimont, Belgique, les 12 et 13 mai 2012. Conférence de Jérémy et Charles à l'Institut Métaphysique International le 3 février 2012 et de Michael le 6 avril 2012. Organisation des journées de Dénissé les 23 et 24 juin 2012. Réalisation d'un congrès national du CSF en 2012 Assemblée générale du CSF le 15 septembre 2012, réunion du Conseil Spirit International Europe les 22 et 23 septembre à Vienne, congrès médico-spirit à Nancy en octobre 2012 avec le mouvement spirit francophone et l'Association des médecins spirit international, et tout au long de l'année dans des réunions régionales. Si vous aussi, vous avez des activités déjà programmées pour 2012, dont vous voulez faire la promotion, n'hésitez surtout pas, nous vous invitons à communiquer avec nous. Nous nous ferons un plaisir d'informer nos auditeurs. De plus, nous incitons chacun et chacune à participer par des commentaires sur nos émissions ou pour nous proposer des sujets, vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale en formant depuis la Belgique le 04 227 60 76 ou le 032 4 227 60 76 au départ de la France et le 0352.4 227 60 76 au départ du Grand-Duché de Luxembourg ou tout simplement consulter notre site internet. Voici arrivée la séquence que nous réservons à la présentation de livres Spirit dont la plupart sont ou seront bientôt disponibles auprès des associations nationales. Le Conseil Spirit français pour la France, l'Union Spirit belge ou via la Fédération Spirit de la province de Liège en son nouveau foyer Spiritualis. Pour obtenir la liste des livres en stock, merci de bien vouloir contacter les associations via courriel. En Belgique, vous pouvez prendre contact via l'adresse suivante fspl@spirit.be ou par voie téléphonique en formant depuis la Belgique le 04 227 60 76. Avec le mouvement Spirit francophone, le Conseil Spirit français va soutenir une campagne de diffusion et d'abonnement à la revue Spirit, aujourd'hui reprise dans la rédaction de ses articles pour en faire un véritable outil d'information et d'études actualisées. Nous invitons donc les centres à promouvoir cette initiative auprès de leurs adhérents, dans notre devoir de pérenniser cette revue créée, pour rappel, par Allan Kardec lui-même. L'abonnement de 4 numéros pour un an sera de 20 euros. Merci de vous adresser à M. Jean-Pierre Pipineau, 9 chemin du Pinge, à 47 520, le passage à Agen. Bonjour Arlette.
Bonjour Gérard. Voici la présentation de deux nouveaux livres écrits par Francisco Candido Xavier, dictés par l'esprit d'André Louis. Le premier, Entre la terre et le ciel, offre des informations sur la relation qui existe dans les activités de l'esprit à travers les deux plans de la vie. Renouvelant son intérêt pour notre perfectionnement intérieur, André Louis révèle l'émouvante histoire d'Amaro, de Sulmira, d'Odila et d'autres personnages en remontant dans les faits de leurs existences antérieures depuis la guerre du Paraguay jusqu'au jour du Rio d'autrefois. Dans sa préface, Emmanuel nous assure que les situations fondamentales de la narration nous sont intimement familières, comme les désajustements familiaux, la tourmente de la jalousie, les luttes quotidiennes pour l'acquisition du progrès moral. Chaque page, d'Entre la terre et le ciel, révèle au lecteur de nouvelles connaissances et de nouvelles émotions. Le deuxième livre, Action et réaction, toujours écrit par Francisco Candido Xavier et dicté par l'esprit d'André Louis. Dans ce livre, vous allez découvrir une description des régions inférieures de la sphère spirituelle et de la souffrance dans laquelle se projette la conscience coupable après la mort du corps physique. André Louis présente des études de cas réels, offrant des orientations sur la dette allégée, la loi de causalité, les préparatifs pour la réincarnation, les rachats collectifs et la valeur de la prière. L'auteur spirituel nous montre que les possibilités de l'existence actuelle sont liées aux actions d'existence passée, de la même manière que les actions d'aujourd'hui conditionneront les possibilités de demain. Voilà Gérard, ceci termine les deux présentations des livres.
Cette émission se termine donc ici. Pour rappel, notre démarche est de mieux faire comprendre le spiritisme. Nous sommes donc à votre disposition pour répondre aux questions que vous vous posez ou que la lecture des ouvrages d'Allan Kardec vous suggère. Vous pouvez également poser ces questions par email, de manière tout à fait anonyme, si vous le souhaitez, à l'adresse radio@spirit.be. Nous y répondrons avec plaisir. Notre répondeur téléphonique, le 00 32 4 227 60 76, est également à votre disposition si vous souhaitez laisser vos questions. Si par contre vous préférez nous écrire, nous répondrons à vos demandes lors d'une de nos prochaines émissions. Vous pouvez nous envoyer votre courrier à l'attention du président de l'Union Spirit Belge, M. Jean-Paul Évrard, 43 rue Maguin à 4000 Liège, Belgique. Merci de votre attention et à bientôt.